France Inter.
J'ai pleuré, j'ai commencé en août le trail et je me suis lancé un gros défi. Bah, et c'était vraiment dur, mais j'ai réalisé mes trois objectifs, donc je suis content déjà de le finir. Faire moins de 9 heures et être dans les 20 premiers. C'est une passion, j'adore.
On repart pour un tour
Non, peut-être un footing dans 2-3 jours.
Ils sont en France plus d'un million, souvent des hommes entre 30 et 40 ans qui tentent de repousser les limites de la fatigue, de l'endurance et du corps humain, quitte à se mettre en danger. Leur terrain de jeu préféré, c'est la montagne et la course en sentier, comme disent les Québécois. Ici, on appelle ça le trail. La discipline, née aux États-Unis dans les années 70, est arrivée en France en 1995 avec un premier circuit dans le Larzac, rapidement dupliqué dans tous les massifs montagneux d'Europe et des pratiquants de plus en plus nombreux. La recette est toujours la même. Des parcours en pleine nature, loin du bitume et les plus longs possibles, 50, 100 et même 300 km pour le Tor des Géants dans les Alpes italiennes, qui oblige les concurrents à franchir 25 cols avec un dénivelé de 24 000 mètres en courant jour et nuit. Toujours plus de difficultés, toujours plus d'efforts, toujours plus d'argent aussi. Le marché de la chaussure de trail avoisine désormais les 8 milliards d'euros avec une croissance annuelle de 6%. Les sponsors sont partout et dans cette course au profit, les petites compétitions amateurs ont de plus en plus de mal à exister face aux grands groupes organisateurs de courses aux allures de multinationales.
On a démarré le circuit avec 22 événements en 2022 et aujourd'hui on a 52 événements dans 28 pays. L'un de nos principaux chantiers, c'est d'être au plus proche des communautés, d'avoir des événements qui permettent aux coureurs de courir localement. Pour vous donner un ordre de grandeur, UTMB Group, c'est autour de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.
Face à cette accélération, les acteurs historiques s'interrogent. Comment limiter l'impact sur l'environnement? Comment conserver l'esprit nature de la discipline? C'est sur la ligne de départ du Trail du Ventoux, dans le Vaucluse, que commence cette émission. La montagne en mode ultra, c'est un reportage de Jérôme Val avec Lucien Lefebvre à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
C'est un village typiquement provençal avec ses façades ocre posées au pied du versant sud du Mont Ventoux. Il est face à nous, ce géant de Provence, et il toise tous les concurrents du haut de ses 1910 mètres, des centaines de personnes qui sont autour de nous. Alors ça discute, ça rigole, ça murmure, ça s'étire un peu, ça vérifie une dernière fois le matériel, léger, le plus léger possible en tout cas.
Allez, on est à 3 minutes du départ.
Il va falloir fournir des heures et des heures d'efforts, parfois plus de 4, 5, 6, 7 heures pour les moins rapides sur ce type de course.
Vous êtes toujours là ?
On vient de toute la France.
Lâchez pas, c'est pas le moment.
Vous faites partie d'un groupe, comment ça se passe hein ?
On fait partie d'un groupe et on fait partie des Mollets Pétillants de Saint-Didier, dans le Vaucluse.
Il y a des sorties chaque semaine. Donc il y en a même qui ont fait 5 km la semaine dernière, qui sont sur le 64 aujourd'hui.
12 collègues sont partis ce matin à 5h30. Il y en a qui partent demain aussi sur le 46. On est à fond.
2 minutes du départ, 2 minutes.
Et on est avec
Jérôme, de Suresnes.
Suresnes, donc en région parisienne.
Ouais, c'est mon premier trail.
Pourquoi ?
Pour associer à la fois la nature, le goût du dépassement, le goût de l'effort, contempler le paysage en même temps que de courir.
Bon courage, on vous retrouve dans combien de temps normalement ?
Entre 4 et 5 heures à peu près. J'espère avant 5 heures.
Allez, on sortit, on reste chaud !
Bonjour Elodie.
Bonjour.
Votre premier trail du Ventoux ?
C'est le premier, oui. Là, je pense que ça va mettre 4 heures, 5 heures. Ça passe en une seconde. Avec la technicité, ça passe à toute vitesse.
Votre pratique du trail, c'est quoi ? C'est plusieurs entraînements par semaine ou c'est trop compliqué ? Comment ça se passe pour vous ?
Je vais courir chaque semaine avec les copains. Les distances sont beaucoup moins longues. Hein. On fait 10-12, trois fois par semaine. Je suis addict à mes sorties hebdomadaires, j'en ai 2-3 par semaine, ça je pourrais pas m'en passer. C'est des moments qui gonflent ma confiance en moi, c'est des moments où je prends des shoots d'endorphines qui me permettent de gérer mon trop-plein d'énergie, je ne pourrais pas m'en passer.
D'Auxerre, numéro combien, vous ?
2891.
Bon, on va suivre ça de près. À tout à l'heure, Élodie.
Merci, bon, à courage. Tout à l'heure. Bonne journée. C'est
beaucoup trop vous. Et le décompte va commencer.
Allez, hop, 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 hop. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, top.
Christine Rouillet, je suis au comité d'organisation du Trail du Ventoux et mon métier c'est enseignante.
Stanislas Richard, également comité d'organisation et moi je suis éducateur sportif opérationnel à l'armée.
Christine, cette édition 2025 du Trail du Ventoux, depuis combien de temps vous la préparez ? Combien de temps ça demande de préparer et d'accueillir des milliers de participants ?
Les choses se mettent vraiment en ordre de marche à partir du mois de juillet-août et jusqu'à venir à un travail quotidien sur l'ensemble des mois d'automne et jusqu'au mois de mars.
Il y a d'ailleurs, à Stanislas Richard, 6 courses.
Effectivement, ça va de 8 km à 75 km. On a vraiment un peu de tout public, quoi.
Traditionnellement, sur les plus longues distances, c'est vrai qu'on voit un public un petit peu plus préparé, un peu plus aguerri, d'autant que nous sommes un trail de montagne qui présente quand même des difficultés techniques et donc qui nécessite d'être aguerri à la pratique de la course en montagne. Mais après, sur les distances les plus courtes, on accueille beaucoup de gens dont c'est le premier trail ou qui en font 2-3 dans l'année. Donc c'est extrêmement varié, on va dire.
Stanislas Richard, on voit le Mont Ventoux derrière nous, sous le soleil, ce mont chauve. Quand on a comme ça une montagne qui s'impose, comment on construit un parcours avec quelles contraintes, quelle idée on a en tête de se dire, bah tiens, on va les faire passer par là. J'imagine qu'il y a des contraintes aussi, vous ne pouvez pas aller n'importe où, n'importe comment. Comment on construit tout ça ?
On mêle nos envies, les plus beaux parcours possibles, cohérents entre eux. Préservation de l'environnement, on ne peut pas passer n'importe où. Il y a des propriétés privées, plus qu'on ne croit, donc on a besoin de leurs autorisations. Et en même temps, la coordination avec la sphère publique pour que ce soit faisable.
Allez, allez, bravo! Il y a un petit ravito en bas! Allez, allez, bravo! Allez.
Et voilà, Élodie qui arrive au ravitaillement, au kilomètre 15.
Bonjour,
ça va ?
Très bien, c'est super. Bon, et vous, ça va, pas trop froid ?
Non,
mais courir,
on vous regarde courir.
Oui, ça réchauffe.
Bon. On va dire que la montée était un peu rude.
Non, ça va, je suis pas habituée. Mais c'était pas affreux. Franchement, ça s'est bien passé. Et il y avait une belle descente, pas du tout technique, donc là, on a pu foncer. Et pour le moment, très beau parcours. Et il reste 15, je crois.
Ça, vous êtes à la
moitié.
Je suis
contente d'avoir le ravito. Je pense avoir un petit creux. Et là, je remets de l'eau. Moi, je vais boire, manger et repartir. Et on se retrouve... Il est quelle heure, là ?
Il est 12h36.
Je pense que je suis dans les temps. Mais c'est dur de savoir, j'ai pas beaucoup d'expérience.
Bon, bon courage.
Merci.
À tout à l'heure.
Vous êtes sûr, vous voulez pas venir tous les deux ?
Non.
Je vais manger un coup.
Il y a un petit blessé, petite blessure. Hein, il y a une chasse terrible et le toubib à côté.
Ouais, c'est bon, ça va aller. Franchement, t'es sûr que tu vas repartir ? Il n'y a même pas de négociation possible.
Ah non, il n'y a même pas de négociation possible. On est là pour profiter.
Donc moi, c'est Cédric de Mangeant. Je suis un natif du Mont Ventoux, donc ici, je suis chez moi. Je suis sapeur-pompier professionnel spécialisé dans le secours en milieu montagne. Donc sur le point de ravitaillement, il y a une ambulance. Donc ça, c'est les dispositifs prévisionnels de secours, c'est réglementaire. Et nous, en fait, entre ces points de ravitaillement, il y a des tronçons qui sont identifiés par l'organisateur comme des tronçons délicats, surtout aujourd'hui avec le fort vent.
Et le vent, ça accentue un peu les risques?
Ça accentue les risques de chute, ça accentue les risques d'hypothermie. On peut voir qu'il y a quelques sacs qui sont vides. Pour moi, c'est pas forcément judicieux, parce que même si l'organisateur a donné des consignes, on voit que certains ne les respectent pas. Ils sont en short, en t-shirt, et tant qu'ils se déplacent, ça va. Mais s'il y avait le moins de pépins, une entorse de cheville ou quoi que ce soit, ils doivent simplement nous attendre demi-heure pour venir. Et bien là, ça peut générer de l'hypothermie. Donc hypothermie, risque de chute. Et puis après, ben, y a les gens qui peuvent se retrouver un petit peu dans le mal-être général. Il y a du vent, je suis un peu en difficulté, c'est fatigant. Et générer un moment de stress où s'ils se retrouvent seuls sur des tronçons. Voilà. Et donc nous, notre présence là, à ce moment-là, en fait, c'est de les accompagner, de les rassurer et de les amener en toute sécurité.
Nous quittons cette ambiance très venteuse et le versant sud du Mont Ventoux et nous allons rejoindre un peu plus bas la ligne d'arrivée à Bédouin pour accueillir les premiers arrivants, les premiers professionnels, les premiers amateurs aussi, comme Jérôme.
J'ai une grosse baisse de glucose là.
Ah oui ?
Oh là là. Deuxième moitié beaucoup, beaucoup moins agréable que la première. Parce que en fait, je suis beaucoup plus à l'aise en montée qu'en descente. Ça casse le rythme, ça casse les jambes, j'ai des mal au dos. Mais une énorme expérience. Je vous avais dit que j'avais fait entre 4 et 5 heures, j'ai fait 4h26. Voilà, donc je suis content.
Oh, il est là.
Vous êtes Théo?
Théo, c'est ça.
On voit boitiller un peu...
Boitiller, j'ai pleuré. J'ai commencé en août le trail et c'était vraiment dur, mais j'ai réalisé mes trois objectifs donc je suis content déjà de le finir. Faire moins de 9 heures et être dans les 20 premiers. Ça m'a pris d'un coup, j'ai commencé à faire des randos en montagne et j'ai commencé à courir. C'est une passion, j'adore.
On repart pour un tour
Non, la repos et la récupération. Peut-être un footing dans 2-3 jours.
Elsa, vous étiez sur le 29 km ?
C'est ça, j'ai eu un gros coup de bambou au bout du 15e. Je sais pas, au niveau alimentation, c'est pas bien passé. Et du coup, j'ai pas pu m'alimenter sur les 10 derniers, on va dire. J'aurais préféré mieux le vivre parce que là, ça a été quand même un long chemin de croix, les 10 derniers kilomètres.
Mathieu,
vous avez couru le
64 km. J'ai mal partout. Là, j'ai les jambes... C'est des bouts de bois là. La montée là, du Ventoux est exigeante. Hein. La dernière partie vraiment dure avec de la neige, un peu de glace et en haut un vent terrible. C'est mon premier trail long. Moi je fais plutôt de la route et du marathon. Et voilà, super expérience, j'ai adoré.
Et là, vous pensez mettre combien de temps juste pour vous en remettre
Je vais déjà faire une semaine sans rien, à profiter. Et puis je commencerai à recouvrir dans une semaine, quoi, on verra.
Avec Elodie, que l'on attendait, qui vient d'arriver, qui est donc suivi par France Inter, média généraliste, qui s'intéresse au trail et ça nous fait plaisir. Il est dépoté 10e chez la catégorie M1
Dames en 97-09.
Bon, comment ça va?
Comment ça va?
Ouais, c'est à vous qu'il faut poser la question.
Oui, oui. Ça s'est très bien passé, la deuxième partie était encore plus sympa et vraiment c'était un beau parcours. La dernière montée m'a fait très très mal. Il y avait plein de gens qui se sont carrément arrêtés parce qu'on est un peu au bout du rouleau à la fin quand même. On a un peu tiré et donc la ligne d'arrivée on la voit vraiment à la fin. Il y a une émulation parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour et qui encouragent. C'est très agréable.
Elodie, je vous propose de rencontrer quelqu'un qui lui est ce qu'on appelle un élite dans ce sport du trail.
Bonjour, salut.
Bonjour.
Salut Elodie.
Comment tu vas?
Bah, ça va très bien.
Tu es prêt pour ta course demain?
Bah oui, et toi? C'était une belle course ce matin?
Oui, ça s'est très bien passé, bon, c'était vraiment une belle course.
Bonjour, moi c'est Thomas Cardin, j'ai 30 ans et puis je suis sportif semi-professionnel, je suis professeur des écoles à mi-temps et l'autre partie de mon temps de travail est consacrée à l'entraînement pour être performant lors des compétitions.
Elodie, là vous venez d'en finir avec votre trail, votre premier trail du Ventoux. Demain pour vous, hein, Thomas Cardin, on le dit, on le rappelle, c'est le 46 Origine. Vous l'avez remporté 3 fois. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette course en particulier?
c'est le premier grand rendez-vous avec des sportifs aguerris. Et c'est vrai que je viens avec plaisir ici. J'ai découvert en 2020 cette course, quand j'étais tout jeune sportif. Et voilà, c'est un peu peut-être de la nostalgie des choses qui se sont bien passées. Mais voilà, j'adore lancer ma saison ici.
Vous êtes aussi champion d'Europe de trail.
C'était l'année dernière, je suis champion d'Europe en titre. Voilà.
Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Elodie, qui à l'image de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'autres personnes se mettent au trail, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui en avez fait presque un métier?
On fait le même sport et on a surtout la même passion en fait. On va juste pas à la même vitesse. Voilà, on a la même passion, de courir dans la nature et puis aussi de dépassement de soi. Voilà, après moi c'est quelque chose que je fais de façon plus professionnelle, avec derrière des entraînements qui sont extrêmement réfléchis. Donc ça commence bien en amont, presque 2 mois avant, par les entraînements. Les entraînements ils sont pas millimétrés, mais ils sont orchestrés par mon coach. La nutrition, l'alimentation qui joue un rôle très important dans la performance, puisqu'on est dans un sport d'endurance et on est obligé de manger et de boire pendant qu'on court, sinon on n'arrive pas au bout. Et ça demande beaucoup de réflexion et de préparation, et puis aussi la stratégie de course qui, elle, même si y a une théorie, sera forcément différente en pratique, parce qu'on court aussi avec d'autres participants qui peuvent nous repousser un peu dans nos retranchements. Je partage beaucoup de choses, je pense, avec les gens qui sont en train d'arriver sur la ligne en ce moment et qui ont couru plusieurs heures sur les sentiers.
Il y a un aspect un peu contemplatif, justement, enfin une philosophie un peu du trail, de se dire on est quand même dans un environnement où il faut aussi en profiter.
Alors les trailers, c'est un sport assez technique, donc on regarde quand même pas mal nos pieds pour pas tomber. On passe pas les 4 heures à contempler, c'est pas possible, mais c'est un bon moyen quand même de se perdre dans ses rêveries, ses fantasmes, ses rêves.
Est-ce que ça vous arrive d'opposer la pratique du trail à la pratique des autres courses à pied plus urbaines?
Pour ma part, pas du tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être parmi les meilleurs mondiaux de la discipline, il faut être extrêmement complet, il faut savoir courir vite en montée, en descente, mais aussi à plat. Voilà, le cœur de ma préparation hivernale, elle se fait sur le bitume, sur la route, voilà, développer la physiologie, développer le cardio, et c'est hyper important, donc c'est pas du tout antagoniste.
La route, vous, Elodie, ça...
Non, jamais de la vie. Les courses de route, je trouve ça d'un ennui mortel. Parfois, je vais sur la piste dans des stades pour faire un peu de fractionner, donc c'est quand même un bon moyen pour travailler, pour faire ses gammes, mais c'est pas mon chocolat, en fait, pas du tout, non.
On dit aussi souvent que le trail, il y a une espèce de communauté trail, ça vous arrive de partager des choses sur le circuit, d'échanger avec ceux qui sont à côté de vous?
Il y a une belle communauté, on se ressemble, on a les goûts communs. Quand on court et quand ça devient très difficile, on manque de souffle. Donc c'est vrai que c'est pas les moments où on a les plus grandes discussions, mais dès l'instant où on pousse pas trop fort, oui, on peut discuter.
En fait, c'est assez particulier, c'est un sport où même en compétition, il faut d'abord triompher de soi et du parcours avant de triompher sur ses adversaires et d'être plus fort qu'eux. Et du coup, en fait, il y a forcément une forme d'entraide, et c'est peut-être ça ce que tu appelles la communauté, c'est plus un état d'esprit. On bataille, mais on bataille avec une vraie forme de fair play. Tous les sportifs qui font ça et qui sont assez aguerris ont connu des moments de doute plus compliqués. Donc c'est ça aussi l'esprit de ce sport. La question qu'on se pose tous quand on se rencontre entre passionnés de cette discipline, c'est quoi ton prochain objectif? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Tu as des rêves dans ce sport, des rêves de course ou de choses que tu as envie de faire?
Bah, lutter quand même. Le Mercantour, c'est vraiment un beau terrain de jeu aussi. Hein. Que ce soit pour l'alpi, l'escalade et le trail, il y a des belles choses.
Allez, on y va! Attention tous ensemble pour se libérer un petit peu! Des deux côtés, hein.
On vous retrouve, Serge Hollin, près du podium. Serge Hollin, c'est donc vous, avec Christine Grouillet, qui avait eu l'idée, au début des années 2000, d'un trail ici, au Mont Ventoux.
C'était le 23 mars 2003, et c'est en rentrant d'une sortie d'escalade qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas une course nature sur le Ventoux, nous ? Effectivement, le paysage du trail à ce moment-là n'était pas celui d'aujourd'hui. Hein. On a plus de 3500 trails qui sont référencés sur les programmes annuels. Et on a proposé donc une première édition le 23 mars 2003.
Quand vous voyez aujourd'hui ce qui est devenu le trail, on va dire, c'est compliqué à évaluer, mais plus d'un million de pratiquants. Quel regard vous portez sur cette évolution très rapide ?
Je crois qu'il y a deux choses à dire. Je pense qu'on peut être satisfait, effectivement, que le trail soit devenu un sport populaire, quoi. Donc, après, je pense qu'il faut y mettre des limites, et nous-mêmes, on y met des limites. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est à 3800 coureurs sur cette épreuve. On a plus de 1800 coureurs sur la liste d'attente. Volontairement, on n'en veut pas de plus de 3800 coureurs pour gérer bien les parcours, mais aussi par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le milieu. Ça, c'est déjà une chose importante. Après, l'évolution du trail, je pense qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société aussi qui est ultra-libérale, donc il y a différentes tendances de l'évolution de cette activité-là. Nous, on essaie de rester authentique avec notre façon de faire. Après, il y a des grosses machines qui arrivent sur le circuit, qui vont modifier certainement le paysage du trail, modifier également le profil des trailers qui vont être plus consommateurs que peut-être trailers vraiment nature.
Quand vous parlez de grosses machines, soyons clairs, vous faites référence notamment, j'imagine entre autres, à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est devenue une entreprise effectivement. Est-ce que ça vous gêne, justement, cette façon de voir le trail ?
C'est pas la façon de voir le trail qui me gêne, c'est une machine qui se met en marche. Il y a une réalité aujourd'hui de repositionnement de l'ensemble de cette activité-là et de l'événementiel d'une façon générale. Ça laissera peut-être moins la place à des organisations de taille moyenne qui ont des réalités, elles, de terrain, vraiment, qui ont une authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète effectivement.
L'Ultra Trail du Mont-Blanc, devenu le groupe UTMB, c'est le poids lourd de la discipline. Un groupe aux allures de multinationales qui rachète des courses locales, noue des partenariats et fait résonner dans le monde entier cette musique de Vangelis, devenue l'hymne des coureurs de trail. La compétition, née en 2003, proposait à l'origine un circuit de 170 km au départ de Chamonix. Face au succès, l'équipe s'est structurée et développée pour devenir le premier opérateur du secteur. C'est dans les Alpes, avec les organisateurs, qu'on retrouve Jérôme Val.
Interception sur France Inter.
Bonjour Frédéric Guénard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de cette UTMB Group.
Je suis en charge de l'ensemble des activités du groupe et du développement du circuit à l'international. On a globalement dans le groupe 90 personnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, UTMB Group, c'était autour de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.
Alors Frédéric Lienard, je vais vous apporter une carte du monde pour nous montrer où vous êtes implanté justement ces dernières années. Alors, vous êtes présent où alors maintenant ?
On a démarré le circuit avec 22 événements en 2022. Et aujourd'hui, on a 52 événements dans 28 pays, en Amérique latine, des événements au Japon, des événements en Chine, etc. L'un de nos principaux chantiers, c'est d'être au plus proche des communautés, d'avoir des événements qui permettent aux coureurs de courir localement.
Alors ce développement que vous nous avez décrit ne se fait pas non plus sans remous, vous le savez, notamment en France, mais aussi parfois à l'étranger. Quand vous arrivez dans un endroit, on vous accuse, entre guillemets, de concurrence déloyale, d'arriver avec de gros moyens. Et dans le monde du trail, où il y a beaucoup encore d'organisations bénévoles ou très amatrices, parfois ça ne passe pas. Comment concilier ces deux approches ?
Quand on installe un nouvel événement, on le fait toujours avec une équipe locale et on le fait toujours en coordination avec les organisateurs locaux des autres événements. On se rend compte que quand on s'installe sur un territoire, notre implantation profite à l'ensemble de l'écosystème local. C'est-à-dire que l'ensemble des courses va connaître un développement et pas seulement nos courses. Si on prend l'exemple de la France, en France, on a une communauté de coureurs qui augmente à peu près de 15% par an. On estime qu'aujourd'hui, il y a entre 700 000 et 1 million de personnes qui pratiquent le trail et qui prennent un dossard sur des événements de trail running. Et nous, en 2024, on a fait courir 35 000 Français sur l'ensemble de nos courses. Donc en fait, on représente une part très faible de la communauté française et il y a vraiment de la place pour tout le monde aujourd'hui.
Pour avoir une idée, un prix moyen de dossard pour une course labellisée UTMB ?
Ça va dépendre de la distance. Ça va varier entre 60-70 euros pour un 20 km jusqu'à 300 euros pour un 170 km.
Ça aussi, c'est un reproche qu'on vous fait d'avoir des dossards relativement élevés par rapport à d'autres courses.
Oui, mais c'est un peu la contrepartie de la professionnalisation de cette discipline. C'est-à-dire que si vous voulez que les coureurs courent en sécurité, si vous voulez mettre en place un suivi des coureurs pour les accompagnants, comme on le fait sur l'ensemble de nos courses avec notre plateforme LiveTrail, une production vidéo qui va être une production d'images qui va être ensuite diffusée sur des plateformes médias comme l'équipe en France, ben ça a un coût. Donc effectivement, tout ça doit être pris en compte. Et on est véritablement, nous, dans une organisation très professionnalisée, là où d'autres sont plutôt sur un format associatif. Je pense qu'il y a de la place pour ces deux modèles.
C'est un peu comme un marathon, en fait. Hein ?
Hein ?
C'est un peu comme un marathon.
C'est comme quatre marathons.
Ouais.
C'est 160 km de course, ça, quand même. Hein.
160 ? Ouais, c'est comme si tu courais d'ici à...
À Orléans, à peu près.
À Orléans.
Sauf que c'est en montagne.
Ouais.
C'est un peu le...
Et t'as payé pour faire ça ?
Ouais.
Et tu gagnes quoi, à la fin ?
Un t-shirt. Avec écrit finisher dessus.
Si tu gagnes la course, tu gagnes un t-shirt.
Non, c'est pas quand tu gagnes, c'est quand tu la finis, simplement. Moi, je vais pas la gagner, hein. Si je la finis déjà, c'est bien. Hein.
Attends. Tu payes. Tu t'entraînes. Pour une course que tu vas pas gagner, mais que tu vas essayer de finir. Et si tu la finis, on te donne un t-shirt qui dit que tu l'as fini.
Ouais. Bah, c'est l'Ultra Trail.
Bonjour, Catherine Poletti.
Bonjour.
Bonjour, Isabelle Viseux-Poletti.
Bonjour.
Catherine Poletti, c'est donc vous qui avez, avec votre mari Michel, créé en 2003 cette UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Est-ce qu'à cette époque, vous aviez déjà l'idée d'en faire l'une des plus grandes courses au monde ?
Ah, pas du tout. Évidemment que non. On a démarré ça par passion. Et pas tout seul, avec des amis. On a pu disposer immédiatement d'un site internet administrable. Et je pense que c'est une grande raison de là où on est maintenant, d'avoir pu commencer ainsi.
Les contraintes. Les contraintes, elles sont évidemment importantes quand on accueille quand même 10 000 coureurs sur la semaine. Tous les accompagnants, on estime 100 000 personnes à peu près sur la semaine. Certains ici dans cette vallée trouvent que c'est trop. Comment vous gérez ce flux et est-ce que c'est possible de faire moins ?
Alors je pense que les contraintes, on les a toujours. On les répartit sur 3 pays et sur 400 km de sentiers, sur cette course. Après, on a un énorme travail, mais ça fait des années qu'on le fait, pour essayer d'inciter, d'entraîner les coureurs à avoir les bons gestes, de respecter l'environnement. Il y a des pénalités pour ceux qui ne le font pas. On a des équipes de bénévoles qui vérifient sur le terrain que ça soit bien respecté, y compris auprès des accompagnateurs.
Depuis plus de 10 ans, on travaille sur la gestion des sentiers, plutôt des abords des sentiers, parce qu'en fait, courir sur un sentier, ça n'a jamais abîmé le sentier. Vous pouvez essayer, hein, vous marchez 18 fois sur une pierre, il y aura toujours une pierre. Donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, c'est sûr que si on ne fait pas attention à ce qui se passe autour du sentier, là, on peut créer des dégâts. Et ça, il faut qu'on fasse attention à que nous, on ne les fasse pas, et aussi que nos coureurs ne le fassent pas dans leur pratique de toute l'année. Ça, c'est un des points forts de notre engagement.
Est-ce que réduire la jauge serait une solution ? Est-ce que c'est envisagé ou là ?
Pour moi, c'est pas de réduire la jauge qui va changer les choses, puisque ça fait longtemps que la jauge, elle est à ce niveau-là. Elle n'a pas changé. Sincèrement, la jauge, on la maîtrise, cette jauge. On ne sera jamais un marathon, je veux dire. On ne sera jamais tout ça. On court sur des chemins, mais si vous mettez 2500 coureurs sur 172 km, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas tant que ça.
Bonjour Antoine Pin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur en France pour l'ONG Protect Our Winters, une ONG qui a été créée aux États-Unis et qui est très mobilisée sur ces questions-là, notamment pour tous les événements sportifs. Alors, la solution, c'est quoi ? C'est d'organiser des transports propres, des mobilités douces pour venir sur le lieu d'événement, même si c'est parfois dans des endroits très reculés et pas forcément facile d'accès.
La première chose qu'on peut faire, c'est essayer d'inspirer les gens à venir autrement. Bien sûr, la question du transport décarboné en France est une vaste question qui dépasse les compétences même des organisateurs et organisatrices, mais ils ont un pouvoir d'influence. On peut penser par exemple au Marathon du Mont-Blanc, qui cette année a réservé 40% de ses dossards aux personnes qui viendraient en transport en commun, alors même que les inscriptions à la course sont soumises à un tirage au sort. Ça fait partie des leviers sur lesquels peuvent agir les organisateurs. C'est aussi la capacité de pouvoir peut-être rediriger les flux financiers quand on arrive à chercher de grands sponsors. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des poches budgétaires pour organiser des navettes, et c'est déjà le cas dans certaines courses. Et la dernière partie qu'on peut activer quand on a un organisateur organisatrice, c'est cette fameuse partie du plaidoyer. Ces gens-là sont des moteurs économiques dans nos régions. Ils représentent des emplois, ils représentent des apports économiques au territoire, et ils peuvent interagir, solliciter, échanger avec les autorités responsables des transports. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Protect Our Winters. On emmène des organisateurs de courses à la rencontre des politiques pour leur partager leurs besoins et la nécessité d'offrir, encore une fois, un accès qui soit vertueux avant de mettre la clé sous la porte, finalement.
Dans les conversations des coureurs de trail, on parle chrono et dénivelé, mais aussi Ballistic Rock Shield, Zero Drop ou Mega Drip. Les semelles de chaussures, Oka, Asics, Rossignol ou Salomon alimentent les débats. La chaussure de trail, c'est un marché de 8 milliards d'euros en constante augmentation et en constante évolution. On va parler budget et équipement avec les passionnés avant d'aller avec Jérôme Val visiter le labo du leader français du secteur.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Moi, je suis Ariane Gingère. Je fais du trail depuis 5-6 ans à peu près, et là, j'habite à Marseille.
Thomas, j'ai 36 ans et je fais du trail voilà, à peu près comme Ariane.
Bonjour, moi c'est Yann, j'ai 32 ans et ça fait une dizaine d'années que je cours sur trail.
Par exemple, pour une paire de chaussures, vous êtes prêt à débourser combien ?
Bah, 120 max.
Ouais. Ah, c'est 200, mais déjà, le 200, ça a été dur de franchir cette limite psychologique.
Ah ouais.
Faut le faire souvent.
Ça a 6 mois.
Les chaussures, là, ont 6 mois. Donc, il faut quand même les décrire. Elles sont plutôt abîmées.
Elles sont littéralement ouvertes sur le flanc du pied. Et voilà, au bout de 6 mois, je pense qu'elles vont vous faire un dernier ventoux et ça sera terminé pour elles.
Oui, donc effectivement, la durée de vie est courte.
Mais après, elles ont des kilomètres aussi. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut regarder.
Un salaire dans les Nike, deux, trois salaires dans les Nike. Un salaire dans les Nike, elle a vu la dégaine, elle a liké. Un salaire dans les Nike.
Nous allons nous rendre dans un endroit presque secret, dans un bâtiment au nord d'Annecy, en Haute-Savoie, là où se fabriquent les chaussures du leader mondial du secteur.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes de France Inter et oui. Nous allons à l'ADC Salomon.
Ouais.
Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous êtes Romain Berger, le responsable ici à Salomon de la gamme chaussures de trail running. Nous sommes où ici précisément Romain ?
Alors ici on est à la paille de prototypage. C'est là où on peut créer des produits vraiment spécifiquement pour les athlètes ou d'avoir des prototypes sans passer par les cases usines Asie.
Là autour de nous, hein, il y a beaucoup de machines, ouais. Des machines à coudre, d'autres machines un peu plus sophistiquées.
Ouais.
C'est en effet très complexe hein, de fabriquer une chaussure, bien plus complexe qu'on peut imaginer. Vous en avez d'ailleurs une entre les mains, on peut la toucher. Donc c'est, on va dire, semelle rigide et on va dire le dessus un peu plus souple. C'est un peu les caractéristiques d'une chaussure de trail, c'est ça?
Ouais, en fait, sur la partie supérieure, on va trouver ce qu'on appelle la tige. Donc là, c'est vraiment ce qui va être en contact avec le pied et donc qui va assurer le maintien, la durabilité et la précision. en fonction des différentes typologies de chaussures qu'on va avoir, on va avoir des tiges qui vont être plus ou moins précises, donc pour assurer aux trail runners une bonne précision à la descente, une bonne agilité et une confiance dans leurs pas. Quand on est sur des modèles un peu plus larges, plus orientés confort, plus orientés ultra trail, on aura tendance à être un peu plus large à l'avant-pied. Donc voilà, il y a tout un tas de caractéristiques qu'on peut appliquer sur une chaussure pour le consommateur. Le point de départ, c'est pas la recherche de matière pour la recherche de matière, c'est vraiment s'intéresser à ce que recherche l'athlète, ce que recherche le coureur. Donc typiquement, en ce moment, on est sur une demande de plus en plus importante de durabilité. Donc on travaille avec nos fournisseurs pour avoir des durabilités importantes, mais également des matières qui sont légères et des matières qui sont respirantes. Les étés sont de plus en plus chauds, les hivers sont de plus en plus humides. Donc il faut des matières qui évacuent bien l'humidité. Pendant des années, on a créé des produits qui s'adressaient vraiment à l'élite du sport. Le sport, il s'est démocratisé. Il s'est démocratisé, le running est hyper tendance. Je pense à des gens qui vont préparer l'UTMB sur un projet de 2 à 3 ans. Quand le jour J de la course arrive, ils n'ont pas envie d'avoir une chaussure qui a été faite juste pour l'athlète qui va gagner, mais la chaussure qui va lui correspondre. Voilà.
Romain Berger, combien de temps il faut pour mettre au point une chaussure entre le moment où vous avez envie de créer un nouveau modèle et le moment où on le retrouve dans les rayons des magasins?
Globalement, on est sur un temps de développement de 2 à 3 ans. 3 ans pour les projets athlètes complexes, 2 ans pour des projets plus classiques.
C'est-à-dire que là, vous travaillez sur les chaussures qu'on retrouvera en magasin en 2027 et 2028.
Exactement, ouais. En ce moment, on finit de fin 2026 et on attaque tout 2027. Ouais.
Et d'ailleurs, on va aller voir comment vous maltraitez, entre guillemets, ces chaussures dans un laboratoire, justement, avec toute une série de tests. On quitte l'atelier de prototypage. On a vu la conception de la chaussure et on va aller vers le laboratoire de sciences du sport. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Marlène Tiandolini, je suis chercheuse en biomécanique et physiologie de l'exercice chez Salomon. On est dans notre nouveau laboratoire justement de sciences du sport. Et ici, l'espace dans lequel on est, c'est plus un espace dédié à la physiologie, où on va mesurer plutôt tout ce qui est dépenses énergétiques, pour comprendre quel est l'impact de la chaussure et de ses caractéristiques sur mon économie de course, sur ma dépense énergétique. Un peu comme le litre au 100 de la voiture, en fait. Notre mission principale, en quelque sorte, ici au laboratoire, ça va être de comprendre la performance dans une activité donnée. Qu'est-ce qui va faire qu'un athlète, un coureur, même si c'est un coureur lambda ou un athlète élite, va être plus performant qu'un autre? Quels sont les facteurs de performance? Donc c'est vraiment juste de comprendre ça. Ensuite, dans un deuxième temps, on va chercher justement à comprendre quel va être l'impact de chaque caractéristique de la chaussure, soit sur la dépense énergétique, sur des contraintes articulaires, ou encore juste sur de la perception purement hédonique du confort, du j'aime pas ou ce genre de choses. C'est là aussi où on a une facette un petit peu de science du consommateur, d'analyse sensorielle. Et la dernière étape, ça va être une fois qu'on a un nouveau concept très en rupture par rapport à l'existant sur le marché, ça va être de quantifier le bénéfice, chose qu'on va derrière valoriser, soit à travers des publications scientifiques ou des communications au congrès ou ce genre de choses.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chaussure fait partie intégrante de la performance. Il y a un gain en fonction de la qualité de la chaussure, il y a un gain.
Oui, complètement, oui, complètement. Alors, il faut savoir qu'en trail running, notamment, les deux principales causes d'abandon, la première, c'est les problèmes gastro-intestinaux, les nausées, mal de ventre, ce genre de choses. La deuxième, c'est les ampoules. Donc, quand on pense qu'une ampoule peut nous gâcher la course, etc., forcément, la chaussure là-dedans, elle vient jouer un rôle très important. Et ensuite, forcément, avoir une chaussure qui nous permette de dépenser moins d'énergie, de moins contraindre les articulations, c'est aussi bénéfique pour la performance dans un but de préservation de la machine, on va dire, du corps. Cette machine, hop.
Donc là, Marlène, qu'est-ce qu'on mesure avec cette machine? Qu'est-ce que vous essayez d'avoir comme données?
Donc là, par exemple, ce qu'on va mesurer, c'est les forces que Jules applique au sol à chacun de ses pas. Donc c'est d'avoir une estimation de la charge qu'il applique sur son corps avec un certain type de chaussure. En fonction de la chaussure, on va avoir des patterns de force qui vont être différents. quand on met les caméras autour du tapis, on est capable d'avoir en même temps ses données de force, donc ce qui se passe sous son pied, plus la façon dont son corps bouge. Et du coup, on peut mesurer des contraintes articulaires, vraiment.
Merci Jules pour la démonstration.
Merci. C'est un vrai casse-tête aujourd'hui de mettre la bonne chaussure en face de la bonne personne, parce que chacun a des besoins qui sont différents.
Cet espace sent le neuf, donc c'est tout nouveau, cet espace de biomécanique. Est-ce que ça veut dire aussi qu'avec l'évolution de la pratique du trail aujourd'hui qui devient assez incroyable, ça vous a aussi obligé à pousser toujours plus loin l'innovation et la recherche?
Complètement. Là, on a quasiment triplé de surface par rapport au labo qu'on avait avant. Effectivement, c'est parce que du fait de l'engouement du trail, on se doit de toujours innover, de toujours pousser plus loin les innovations. On s'intéresse aussi au sac, comment le sac a un rôle aussi dans la performance. On va commencer à s'intéresser aux vêtements aussi. Donc vraiment, notre activité scientifique ici, elle est passée de juste le footwear, juste la chaussure, à tout l'équipement et même au-delà.
Bonjour, je m'appelle Christelle Robert. J'ai intégré l'entreprise il y a 25 ans en tant que stagiaire. Donc j'ai accédé à divers postes chez Salomon, toujours dans le produit. Et aujourd'hui, je suis donc directrice marketing produit pour le soft goods, donc les chaussures, les vêtements et le sac.
On a compris à travers le cheminement qu'on vient de faire tout ce qui se cache derrière une chaussure de trail, la recherche, la technologie, les tests, la longueur de la conception entre le moment où on imagine une chaussure et le moment où elle se retrouve dans les rayons des magasins. La conséquence de tout ça, Christelle Robert, c'est le prix aussi. Et aujourd'hui, en termes de gamme de produits, il faut compter en moyenne combien pour acheter une paire de chaussures?
On peut avoir des produits d'entrée autour de 120 jusqu'à 250 euros selon le type de produit dont on a besoin. On ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités du produit. Et le trail running, ça demande des produits exigeants. Pourquoi ? Parce que le coureur rencontre différents types d'environnement, différents types de météo et différents types de terrain. C'est un sport mature, autant en termes de structuration d'événements qu'en termes d'offres produits, qu'en termes de pratiquants. Et on est dans une phase, la croissance n'est pas terminée, c'est ce qu'on remarque. Et par contre, aujourd'hui, on se trouve quand même dans une phase de transformation du sport.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de paires de chaussures vous vendez à l'année sur ce créneau spécifique du trail?
Alors, je n'ai pas le droit de communiquer de chiffres. En fait, on est en bourse maintenant. Et en fait, on ne peut pas... Alors, je m'étais quand même noté des pourcentages. Le trail running chez Salomon, ça représente un tiers du chiffre d'affaires des chaussures de Salomon. Et la chaussure représente 80% du chiffre d'affaires soft goods.
Ça veut dire quand même que c'est le on va dire, le secteur aujourd'hui qui porte vraiment
Salomon. Ouais. Alors, entre les chaussures d'outdoor, les chaussures de trail et maintenant les chaussures de sport style, c'est 80% du chiffre d'affaires de Salomon. C'est ce qui va être passionnant dans les 5-10 prochaines années, c'est justement comment le trail va évoluer. Parce qu'en fait, on se retrouve là dans un moment où on a des corps pratiquants qui recherchent d'autres choses. On est dans un moment où les événements, en fait, il faut s'inscrire un an à l'avance. C'est quand même assez compliqué d'accéder à un événement trail. Ces corps pratiquants recherchent autre chose, donc avec des défis personnels, avec des traversées, des choses comme ça.
Et est-ce que l'effet pervers un peu pour vous d'avoir un tel développement, c'est pas un peu la course à l'échalote de la dernière innovation technologique, de sortir la chaussure incroyable qui vous fera gagner des courses Est-ce que dans ce marché-là, c'est pas un peu le risque?
En effet, c'est un risque. Donc nous, déjà, on a une approche d'innovation qui est de l'innovation responsable. On essaye de faire moins, mieux et surtout de bien comprendre le besoin de l'utilisateur. On est quand même sur des cycles de vie de produits qui sont un peu plus longs qu'une chaussure de route. En gros, sur une chaussure de route, sur un modèle de n'importe quelle marque, le produit va être complètement nouveau tous les 2 ans et chaque année, il y aura une innovation sur la partie tige. Entre elles, on est plutôt sur des cycles de vie qui peuvent aller de 3 à 4 ans. Mais c'est à nous, en fait, justement, d'être malins, d'intégrer ces innovations d'une façon responsable pour pas aller trop vite.
La montagne en mode ultra, c'est un reportage de Jérôme Val. Prise de son, Lucien Lefebvre. Réalisation Gaëtan Colli. Attaché de production, Martine Messonnier. Mixage, Manon Houssin. Pour réécouter cette émission de France Inter...
France Inter, médias généralistes qui s'intéressent au trail et ça nous fait plaisir.
Abonnez-vous à Interception sur l'appli Radio France.